quand je quittais la région parisienne et que je traversais les champs, j'avais toujours le sentiment d'avoir devant moi des paysages qui n'avaient pas changé. En réalité, ils ont changé. J'ai lu Terre Mouvante depuis, je sais tout ça. Ils ont changé et ces paysages, eh bien, j'imaginais pouvoir y trouver, j'espérais pouvoir y trouver comme une sorte de machine à remonter le temps, des cerfs, des vilains par-ci, par-là, que je ne trouvais pas et puis que je n'étais pas prêt de trouver parce que j'étais ouvrier dans l'imprimerie, à l'imprimerie du Figaro pendant 15 ans. Et au bout de 8 ans de travail dans l'industrie, j'ai commencé des études d'histoire et je me suis d'abord intéressé à la généalogie. Et puis, très vite, savoir que Pierre était le fils de Paul, ça m'a fatigué et j'ai eu envie de découvrir des minutes des notaires. Et à partir de la découverte des minutes des notaires, de découvrir comment finalement vivaient les gens avant nous, dans l'ancienne France et dans un monde que je ne connaissais pas du tout, l'univers des campagnes. Voilà. Alors, les années se sont succédées. Et effectivement, j'ai soutenu une thèse sur Montreuil, sous Louis XIV. Montreuil, qui est une ville de 100 000 habitants aujourd'hui, près de la porte de Bagnolet, de la porte de Montreuil, à Paris, si vous connaissez, un endroit extrêmement industrialisé, bétonné, qui ne ressemble évidemment plus du tout à ce gros village de vignerons de 2000 âmes à la fin du XVIIe siècle, et où j'habitais. Et pour lequel donc j'éprouvais un intérêt particulier. J'avais envie de savoir, là encore, à quoi tout ceci ressemblait. Après ma thèse, j'ai poursuivi des recherches, et cette fois sur la Picardie, Picardie où j'ai une partie de mes ancêtres, mais surtout Picardie où personne n'a fait grand-chose depuis Albéric de Calonne, en tout cas sur les plus humbles. Et la Picardie qui, pourtant, a laissé toute une série de sources sur lesquelles je vais m'exprimer dans peu de temps. Une Picardie qui permettait aussi de voir si ce que j'avais raconté en thèse sur Montreuil était pertinent un peu plus loin, à savoir que Montreuil était un village qui se trouvait à l'époque à 6 km de Paris, un village qui était imprégné d'urbanité, en quelque sorte, où la moindre famille avait pignon sur rue à Paris, les vignerons donnaient des marchands de vin, les marchands de vin vendaient leur production à Paris, les arboriculteurs vendaient leur pêche à Paris, etc. Donc on avait là un monde assez imbriqué de paysans et d'urbains, avec forcément une forte influence de la ville de Paris sur sa campagne, sur ses campagnes, parce que j'ai travaillé aussi sur d'autres paroisses des alentours. Qu'en était-il des paroisses de Picardie à 120 km de là? Ce n'était pas forcément la même chose. Et donc, je suis allé sur place, à Amiens, aux archives départementales. Alors, je fais fonctionner ceci. Voilà, j'ai trouvé ce document qui montre un notaire au XVIIIe siècle. Ce n'est pas forcément un notaire picard. En fait, je ne sais pas du tout de quel notaire il s'agit, mais on a là un document qui nous permet de découvrir la rédaction, en tout cas la signature ici d'un traité de mariage du XVIIIe siècle. Et j'ai découvert donc toute une série de documents, ici une minute notariée qui vaut pour beaucoup d'autres, voilà, qui pour le XVIIIe siècle est relativement lisible, assez facilement lisible, et bourré de détails, et qui permet donc de lever le voile sur la population rurale du temps. Ce qui n'était pas évident de prime abord, et c'est peut-être pour ça que les gens ne sont pas plus intéressés que ça à la Picardie d'Ancien Régime, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, la région a été profondément dévastée. Ici, vous avez le bourg de Moreuil, qui est une petite ville de 5000 habitants, il y a un siècle aussi, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et il ne restait plus rien. Même les caves avaient été passées au lance-flammes au cours des combats de la Reconquête d'août 18. Donc il ne restait plus rien. Tous les villages étaient ravagés et beaucoup d'archives ont disparu. Et il y avait cette idée qu'il n'y avait plus rien et donc qu'on ne pouvait rien en faire. En réalité, pas du tout. Malgré les bombardements d'Amiens, où se trouvaient déjà un nombre de registres paroissiaux, eh bien, on a pu sauver tout un tas de documents depuis, généralement pour le Santerre, depuis 1692 ou 1694. Avant, c'est rare d'avoir quelque chose pour les registres paroissiaux. Et donc de retracer des familles que je n'ai pas retracé tout seul pour la vingtaine de paroisses sur lesquelles j'ai travaillé, mais pour laquelle j'ai embauché, entre guillemets, deux généalogistes passionnés de généalogie, ce qui me permettait, dès que je trouvais un personnage un peu intéressant, de savoir qui était, s'il avait parrainé quelqu'un, si, qui était son parrain et sa marraine, de quelle famille il était issu, etc. etc. Voilà. Alors, tout ceci m'a permis aussi de découvrir des personnages que je ne m'attendais pas à découvrir, des soldats notamment. J'avais en tête l'idée que les paysans détestaient les soldats. Or, dans le Santerre, je trouvais des soldats un peu partout, enfin, à chaque page, n'exagérons pas, mais je trouvais de nombreux soldats. Et donc, j'ai été amené à aller à Vincennes, aux archives du service historique de la Défense, où j'ai pu avoir accès à des documents qui sont en libre accès, hein, les registres du contrôle des troupes, et qui nous donnent toute une série d'informations, là encore, sur des personnages. Ensuite, j'ai travaillé sur des documents de la série B, hein, des actes de justice seigneuriale, en particulier deux villages, Arvillers et le Plessis-Rosainvillers, je reviendrai dessus. Et enfin, j'ai débordé un peu la période Louis XVI en étudiant des rapports de l'Assemblée du district de Montdidier, qui est une ville du Santerre, pendant la période révolutionnaire. Enfin, aux Archives nationales, je suis allé dépouiller une correspondance qui m'a passionné, celle de l'agronome Duhamel du Monceau, avec un curé de campagne qui s'intéressait davantage à l'agronomie qu'à tenir de bourgistes paroissiaux, puisque c'était probablement le curé qui écrivait le plus mal de tous les curés du Santerre, tandis que ses lettres à Duhamel du Monceau étaient parfaitement bien rédigées. Et donc, ces deux personnages qui s'intéressaient à l'innovation agricole et en particulier à la conservation des grains, enfin toute une série de choses. Ce qui m'a fait un corpus d'archives assez divers et qui m'a donné donc la possibilité de rédiger un livre, donc la vie en Picardie du café dans les campagnes, à partir des minutes notariées, 300 inventaires après décès, à partir de nombreux traités de mariage, des baux, des actes de vente, des testaments, les documents qu'on retrouve le plus fréquemment dans les minutes des notaires, et donc de publier ce livre qui a obtenu le prix des archives départementales de la Somme en 2012. À partir de là, eh bien, je vais brièvement, par petites touches quand même, décrire la société rurale du temps dans le Santerre. D'abord, un éventail social largement ouvert. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur, par l'aristocratie locale. Les campagnes du Santerre au XVIIIe siècle sont largement tributaires de l'aristocratie picarde, qui détient d'immenses territoires, et en particulier des terres arables qui sont d'une grande richesse. Alors, Santerre, on n'est pas sûr, les érudits du ancien régime, certains disent que ça vient de Sané, Terra, la terre, Seine, d'autres disent, bon, il y a un peu de tout. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une terre très riche, c'est un grenier à blé. Et donc, posséder des centaines d'hectares, c'était toujours intéressant. La terre, à l'époque, c'est la richesse. Et ces aristocrates qui possèdent évidemment des villages, des droits seigneuriaux qui sont assez vigoureux en matière de justice et d'exploitation des terres communales, surtout dans les profondes vallées marécageuses de l'Avre et de la Luce. L'Avre est un affluent de la Somme. Ces seigneurs sont en perpétuelle rivalité avec d'autres seigneurs, qui sont les ecclésiastiques, puissamment installés eux aussi dans le Santerre avec l'abbaye de Corbie, bien connue, le chapitre cathédral d'Amiens, le chapitre de Saint-Quentin en Vermandois, qui possèdent d'immenses domaines. Et ce sont donc les seigneurs ecclésiastiques qui reviennent le plus souvent dans les sources. Ces familles nobles alternent, les familles nobles de l'aristocratie, alternent évidemment leur présence au rythme des guerres, au rythme des combats, et de nombreux conflits les projettent sur tous les champs de bataille de l'époque. Certains ne reviennent pas, d'autres reviennent. Et ceux qui reviennent sont intéressants, parce que lorsqu'ils reviennent, ils rénovent leurs châteaux, qui sont souvent des châteaux qui, jusqu'au XVIIe siècle, avaient tendance à s'effondrer. Ils les rénovent, enfin, ils les font rénover, les font transformer en de véritables petits Versailles picards. Ils installent une domesticité nombreuse, avec des jardiniers d'ornementation pour avoir de beaux parcs à la française. Et dans une certaine mesure, ce sont des gens qui font entrer la modernité du XVIIIe siècle dans les campagnes. Donc ces petits palais, évidemment, ne peuvent qu'être remarqués par les paysans qui, eux, pour la plupart, vivent dans des chaumières assez misérables, pour la masse des manouvriers en tout cas. Et ceux qui en ont les moyens essayent d'imiter ces élites sociales. Et parmi ces gens-là, vous avez les gros fermiers, qui sont le groupe assez le club fermé des élites paysannes, qui sont les receveurs de seigneurie, qui sont choisis pour être des officiers ou des représentants du seigneur auprès des communautés rurales. Parmi ces familles, on trouve des gens qui exploitent en fermage d'importants domaines. Par exemple, la famille Vinchon, qui brille particulièrement, elle est établie à Hennemain, qui est un petit village du côté de Péronne, connu pour l'Historial aujourd'hui. Et c'est une famille donc qui a un domaine exceptionnellement grand de 800 hectares. En réalité, c'est assez rare. On n'est pas en Île-de-France et la plupart des familles de gros fermiers tiennent des domaines qui avoisinent les 200 hectares, ce qui est déjà beaucoup pour l'époque. J'ai un exemple, la famille de Morcy à Angest-en-Santerre. Angest-en-Santerre, c'est un village dont vous allez beaucoup entendre parler au cours de l'heure parce que c'est là que se trouve l'étude royale sur laquelle j'ai le plus travaillé. Donc la famille de Morcy à Angest-en-Santerre détient 200 hectares. Pendant trois générations, les membres de la famille font la pluie et le beau temps dans le village. N'hésite pas à faire le coup de poing contre des paysans qui leur volent des pommes parce que en pays de Santerre, la terre est dévolue au labour et il y a des chemins verts pour les troupeaux de moutons. Et de chaque côté des chemins verts, vous avez des pommiers qui appartiennent là aussi aux gros fermiers. Et ces pommiers sont l'objet de luttes incessantes entre les pauvres et les riches ouais, qui essayent d'accaparer les pommes pour en faire du cidre ou pour les manger ou pour les vendre. Enfin, toute une série de choses. En 1791, la famille de Morcy a dû déclarer son patrimoine au fisc. Et son patrimoine était estimé à 176 272 livres tournois, à comparer au salaire quotidien d'un ouvrier agricole, d'un manouvrier, qui était à peu près de 15 sols. Donc là, une livre, c'était 20 sols. 176 000 livres. Donc entre ces riches fermiers, peu nombreux finalement, et la masse des manouvriers, qui sont de loin les plus pauvres et les plus difficiles à cerner aussi dans les sources, parce qu'ils passent beaucoup moins souvent chez le notaire que les gros fermiers, eh bien, on trouve toute une série de personnes, des laboureurs d'abord, j'ai 49 inventaires après décès, qui permettent de savoir que ce sont des gens qui ont au maximum 3 chevaux de trait, pour 15 sur 49. Ensuite, j'en ai 12 qui ont seulement 2 chevaux de trait. J'en ai 4 qui ont un seul cheval et les notaires les appellent, entre guillemets, laboureurs moyens qu'un cheval. Donc ceux-là sont désignés. Et puis enfin, j'ai 18 laboureurs sur 49 qui n'ont pas de chevaux du tout, qui peuvent être des veuves de laboureurs ou des vieux laboureurs qui ont donné leurs biens à leurs enfants. C'est possible. Donc on a un monde de laboureurs assez médiocre, assez pauvre finalement par rapport à ces gros fermiers dont je viens de parler. Viennent ensuite de très nombreux artisans de village. Chaque village a des charrons, des maréchaux ferrants, des maçons, des charpentiers, des couvreurs en chaume. Et surtout, à partir de 1720, chaque village du Santerre est investi par les bas d'estamiers. Les bas d'estamiers, ce sont des fabricants de bas d'étame, de bas de laine, qui sont fabriqués par des manouvriers à la maison sur un métier à tisser à bras qui coûte assez cher. Hein. Pour se le payer, en général, il faut partir dans la milice. Voilà, vous acceptez de partir dans la milice, les autres paysans vous donnent de l'argent et avec cet argent, vous allez pouvoir vous payer un métier à tisser si vous revenez. Voilà, en gros, le principe, ce sont des métiers qui valent dans les 180 ou 200 livres tournois. C'est quand même un investissement de départ important. Et donc, ces gens-là sont très nombreux et autour d'eux, on gravite des marchands de bas, des épiciers qui diffusent dans les campagnes des abécédaires pour les enfants, des sifflets, des médicaments, des draps. On remarque aussi dans chaque village au moins une boucherie, voire plusieurs. Donc on a un réseau de petites boucheries assez important, avec aussi des paysans qui sont à la fois paysans, artisans, vendeurs d'œufs. On les appelle les cocogniers ou les coquetiers, et qui vont aller vendre leurs œufs jusqu'à Paris, qui se trouve quand même à 120 km de là. Donc quotidiennement, on a des charrettes pleines d'œufs qui partent vers la capitale. Donc, et enfin, n'oublions pas les cabaretiers, très nombreux. Chaque village en a plus assez cabaretiers à une époque où il s'agit d'un lieu de sociabilité important. Et d'ailleurs, je viens de retrouver la semaine dernière un document intéressant où le lieutenant de justice d'une famille de gros fermiers avait arrêté le cabaretier parce qu'il ouvrait ses portes et laissait des violonistes, des violoneux jouer pendant l'office, pendant la messe. Et donc là, c'était absolument impensable. Donc on a toute une série de gens comme ça qui vivent dans les campagnes et qui font que, par petites touches, on s'aperçoit que ces campagnes donc, sont très diverses, socialement très diverses. Si on étudie les registres paroissiaux, on s'aperçoit que ces routes royales servent à faire venir tout un tas de gens, et notamment des hors-saints venus parfois de très loin. Ainsi, en Gestamp-Santerre, on y retrouve un chirurgien qui est né à Rennes et donc qui va y passer toute sa vie jusqu'à sa mort. Et ensuite, il est remplacé par un autre chirurgien qui est natif de Douai, dans le Nord. Bon. Ensuite, on peut se demander comment ils ont atterri un peu au milieu de nulle part. Et on se rend compte que ces chirurgiens sont souvent d'anciens militaires qui ont servi notamment pour plusieurs dans les hussards de Sa Majesté, et qui ensuite se sont installés, probablement pour des raisons là qui m'échappent, dans le Santerre. Ce sont des gens qui sont importants en termes de transmission culturelle, parce que d'abord, ils visitent tous les foyers ruraux, ils ondoient les nouveau-nés qui sont très faibles à la naissance et risquent de mourir. Ce sont des gens qui sont connus et qui sont capables de décrire les pays d'où ils sont originaires. On retrouve aussi dans le sillage des Bas-d'Estamiers de nombreux Normands qui sont originaires des diocèses d'Évreux et de Cé en particulier. On trouve des tisserands qui arrivent d'Île-de-France. On trouve des jardiniers des parcs d'ornementation qui arrivent du pays chartrain. Donc des gens finalement que je ne m'attendais pas à trouver de prime abord en plein Santerre. On trouve aussi des filles mères qui fuient probablement la bienveillance de leurs voisins, et notamment une fille mère qui est venue depuis Besançon pour aller s'installer, elle aussi, en plein Santerre, où elle a élevé sa fille, etc. On trouve aussi de nombreux enfants de Paris, des enfants trouvés. Ils ne mouraient pas tous. En général, on met le projecteur sur tous ces enfants qui mouraient en nourrice, parce que c'est très impressionnant dans chaque paroisse de voir autant d'enfants qui mouraient en nourrice, mais certains ne mouraient pas, et même restaient sur place et s'y mariaient. Et donc, on a des enfants de Paris qui deviennent adultes et qui deviennent de parfaits picards. Voilà. Alors, ces belles routes royales qui sillonnent le Santerre, elles sont empruntées par toute une population hors Seine, hein, qui était insoupçonnée. J'ai quelques exemples qui valent pour bien d'autres. Par exemple, à Bayonvillers, le village du curé agronome, on retrouve une certaine Marie Delabbé qui arrive de Liège et qui épouse un villageois local. Nous avons, non loin de là, dans un petit village qui s'appelle le Quesnel, une communauté normande. Nous avons dans ce village un certain Saillard, qui est marchand d'épingles métalliques et qui convoie des voitures depuis Ruc, en Normandie, jusque chez un marchand du Quesnel, qui ensuite les commercialise sur place. Ruc, c'est Rugle, dans l'Orne, et qui est un haut lieu de la métallurgie normande. Et les fabricants de bas, au métier, eux, ont besoin de ces épingles métalliques qui, il n'y a pas de métal en Picardie. Voilà. On a des villages qui réservent leur lot de surprises, par exemple au Plessis-Rosainvillers, donc tout près d'Angest-en-Santerre. En 1750, Laurent Boissard, qui est fils d'un marchand de blé du Plessis-Rosainvillers et qui est devenu marchand à Plouermel en Bertanne, et donc qui quitte la Bretagne pour revenir en Picardie, et pour régler la succession de son père. Alors, il n'a pas hésité quand même à franchir 530 km à l'époque pour une affaire de succession. Bon, le père avait du bien, mais quand même. On trouve aussi un certain Nicolas Laforge, qui est du même village, du Plessis-Rosainvillers, qui s'engage dans l'armée au régiment de Condé et qui devient tailleur d'habits à Fougères, en Bretagne, dans les années 1770. Donc on voit des va-et-vient assez lointains et assez intéressants. Le Plessis-Rosainvillers, c'est un village très particulier qui a été investi par la première manufacture de bas rurales en Picardie en 1728. Et dans ce village, j'ai relevé les noms de membres d'une trentaine de familles qui étaient originaires des diocèses d'Arras, de Boulogne-sur-Mer, mais aussi de Beauvais, de Noyon, de Soissons et même de régions parisiennes. Donc on a là des gens qui n'ont pas hésité à franchir des distances assez importantes pour aller travailler comme peigneurs de bas ou comme fouleurs de laine dans cette manufacture où ils vivaient, où ils étaient à demeure. On trouve aussi dans les campagnes une foule de colporteurs qui sont désignés par les notaires comme des marchands foirins qui viennent parfois de très loin. Ils vendent des objets ou des services et ils sont probablement une source essentielle en matière d'information car une partie de la population rurale est avide de nouvelles du vaste monde, vous le verrez. Leurs traces apparaissent à l'occasion dans les registres mortuaires des hôpitaux urbains lorsque, frappés par la maladie, ils passent de vie à trépas. J'ai réalisé quelques sondages à Montdidier, notamment. Entre 1740 et 1760, on retrouve le décès d'un Lorrain, un Diepois, quatre Savoyards, sept Auvergnats, des gens qui n'ont jamais revu les leurs et qui sont morts donc très loin de chez eux, en Picardie. En revanche, certains survivent, là encore, et se marient avec des jeunes femmes de Picardie, et notamment un village d'Omar-sur-la-Luz, 10 km d'Amiens, où, à 9 ans d'intervalle, on retrouve deux Auvergnats qui épousent deux Picardes. Donc, tout ceci nous amène à... Alors là, c'est du texte, je suis désolé, mais je viens de le trouver. Alors, vous avez des extraits d'un registre plusieurs registres du contrôle des actes pour le XVIIIe siècle. Et j'ai trouvé intéressant de vous apporter ça parce que on voit le premier texte, Gilles et Martin Thory du village du Quesnel, qui doivent de l'argent pour de l'eau de vie à un marchand d'Orléans. Orléans, la Picardie, il y a quand même plus proche, surtout pour de l'eau de vie. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on est en 1714 et que si on prend le troisième item, 29 ans plus tard, on a encore une affaire entre ce Thory du Quesnel et puis un autre marchand à Orléans avec une procuration. Donc pour quelle raison, sur deux générations, à 29 ans d'écart, on est toujours en affaire entre la Picardie et Orléans? Voilà quelque chose qui est à creuser. Et puis, on s'aperçoit aussi que la même famille Thory du Quesnel a des intérêts pour de l'huile à Arras. Bon, Arras, c'est moins loin. Enfin, quand même, ça fait bien 80 km. De l'huile, on en faisait dans le Santerre. Donc, pourquoi si loin? Ensuite, vous avez le quatrième item, où on s'aperçoit que là, cette fois, c'est un marchand du Santerre qui exporte de l'eau de vie près de Sedan, donc assez loin. À la ligne du dessous, on voit le même marchand faire venir des contrepoids depuis la Thiérache, donc on est pratiquement à la frontière belge actuelle. En dessous, ça j'ai bien aimé aussi, c'est un texte qui met en relation une veuve du Santerre avec un négociant, Guyard du Pierret, négociant à Nantes, et pour récupérer une certaine somme. Visiblement, le beau-frère de cette veuve était militaire à Saint-Domingue, et donc il y avait 600 livres à reprendre, et elle transitait par ce marchand nantais, qui par ailleurs s'était marié à la Guadeloupe et avait eu une fille à la Martinique. Donc, on a là, comme ça, de belles surprises quand on creuse les minutes des notaires. Et puis, enfin, une procuration. J'arrête de vous assommer avec ça après. Mais une procuration qui m'a paru intéressante parce qu'on voit ce François Duchesne qui passe devant un notaire à Spire, dans le Württemberg, parce qu'il veut hériter de sa sœur qui est dans le Santerre. Et entre la date du décès de sa sœur et le moment où l'acte de procuration revient dans le Santerre, il ne s'est écoulé qu'un mois. Donc c'est très rapide. Voilà, j'ai trouvé. Et voilà, on a toute une série de documents comme ça qui nous permettent d'avoir de belles surprises et de voir combien ces campagnes, finalement, elles ne sont pas si perdues qu'elles en avaient l'air lorsqu'on les emprunte en voiture aujourd'hui. Par ailleurs, dans ces campagnes, on trouve, là on parle d'Allemagne, mais on trouve de nombreux étrangers. Enfin, de nombreux. On trouve des étrangers. Par exemple, j'ai trouvé à Angestan-Santerre une fille du village qui épouse un manouvrier suisse, nouveau converti, un Suisse dans le Santerre. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un garde suisse qui avait quitté l'armée ? Ça, on ne sait pas. J'ai creusé, je n'ai pas trouvé. Un Suisse. Dans quatre villages limitrophes, on trouve quatre Allemandes. Pour l'une, au moins, on sait qu'elle a été ramenée par un militaire du village qui l'a épousée et ensuite qui ne savait plus quoi en faire. Donc, quatre Allemandes, ici. Au moment de la Révolution, dans le contexte des guerres de la République, 1792, de nombreux Picards se sont enrôlés massivement et les bras ont manqué. Et pour cette raison, eh bien, l'Assemblée du district de Montdidier a commencé à placer chez les cultivateurs des déserteurs étrangers et des prisonniers de guerre. Ainsi, dans le hameau de Saint-Aurin, près de Roye, les batteurs en grange locaux qui avaient refusé de travailler pour le salaire habituel, ils essayaient d'être mieux payés, peut-être parce que justement il y avait moins de main-d'œuvre, ils touchaient le 20e du grain battu. Eh bien, ils ont été emprisonnés et ils ont été remplacés par des déserteurs étrangers, des Hongrois. Ensuite, les prisonniers de guerre et les déserteurs trouvent un accueil qui est inégal, vous l'imaginez bien, et on trouve des phrases qui insistent sur le fait que les prisonniers de guerre ne doivent pas être traités comme des bêtes. Ce sont les administrateurs républicains de Montdidier qui écrivent. Des phrases qui dénoncent aussi la cruauté des officiers municipaux du village du Quesnel. Je cite, « Vous vous comportez envers les déserteurs étrangers qui sont venus avec nous respirer l'air de la liberté de manière à leur faire haïr les républicains. » Bon, donc l'accueil n'est pas très bon, mais pourtant, dans quelques cas, il y a une adoption qui est bien réelle. Par exemple, entre 1795 et 1804, j'ai retrouvé dans 21 localités 28 mariages de Françaises avec des prisonniers de guerre étrangers ou des déserteurs, parmi lesquels le village du Quesnel, où finalement tous les étrangers n'étaient pas maltraités. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des gens dans la Somme, les familles, les Méglinquis, qui descendent d'un Irlandais, McLinkey, les Sterna, qui descendent d'un Hulan hongrois, les Wakar, qui descendent d'un certain Walker, et qui sont des gens qui, pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, ignorent totalement qui sont les descendants d'un prisonnier de guerre de la Révolution. Alors, puisque j'en viens à la guerre, j'en viens aussi à ce phénomène de l'armée et des mobilités géographiques et sociales, l'enrôlement des jeunes. Il faut savoir qu'en Picardie, l'enrôlement dans les milices royales est une tradition solidement enracinée et depuis le Moyen-Âge. On disait en tout cas que les Picards avaient la tête près du bonnet. Et au XVIIIe siècle, rien n'a changé. Et donc, on a une frange non négligeable de la population rurale qui s'engage dans les régiments du roi. On les retrouve dans les registres paroissiaux, en quartiers divers, lorsqu'ils reviennent en famille, avant d'être à nouveau projetés au loin, ou alors dans les places-portes du Pré-Carré, qui ne sont pas très loin, ou encore pour monter la garde au château de Versailles, comme ces gardes françaises, qui sont assez nombreux à être originaires de Picardie. D'après mes calculs, on peut estimer à 5% la proportion des Picards qui signent un engagement dans les armées du roi. Alors évidemment, ces gens vont et viennent, beaucoup reviennent, et lorsqu'ils sont revenus au pays, on peut imaginer qu'ils dilatent peu ou prou l'univers mental des ruraux qui, eux, sont demeurés au village. Un exemple, le 31 janvier 1754, le curé de Bayonvillers procède à l'inhumation de Jean-Baptiste Maine. Et il rédige, parce qu'il est probablement très intéressé par le personnage, une courte biographie de l'ancien soldat dans son registre paroissial. C'est unique pour ce curé qui est resté en poste, en charge de sa cure pendant 60 ans. Voilà ce qu'il écrit. « Pauvre ancien soldat, retiré des troupes d'Espagne, garde wallonne ou suisse du régiment de Wirst selon ses congés, établi depuis 10 ans chez la veuve Madeleine Areux, il alloie à l'aumône dans les villages voisins. Né dans les troupes à Lille, en Flandre, 5 pieds, 5 pouces, cheveux frisés, un peu noirs, teint basané, paraissant 67 ans, c'est très précis. On a trouvé chez lui une lettre écrite 10 ans plus tôt, en 1744, écrite par son frère, Jacques Maine dit l'Espérance, soldat aux gardes wallonnes à Villefranche de Piémont, transporté pour guerre en Piémont. Donc vous voyez, ce personnage est passé par l'Espagne, il a un frère en Piémont, Le curé est au courant, toute la paroisse est au courant, et probablement aussi les villages alentours, où il va à l'aumône, on nous le dit. Donc on a là une biographie qui probablement lève le voile sur ce qui devait être beaucoup plus fréquent que ça, mais bon, c'est la seule biographie. Ces mobilités guerrières sont intéressantes aussi parce que ces soldats sont donc des sources d'informations majeures au village. Par exemple, on peut supposer que les caractéristiques des places fortes frontalières étaient connues de tout un chacun. Le soir, à la série, c'est la veillée, dans les caves des villages, parce que les caves, il n'y a pas besoin de les chauffer en hiver, la température est constante et moins froide qu'au-dessus. Et donc, à la série, le récit des militaires en quartier d'hiver, en permission, devait constituer une épopée probablement connue de toute la population, et d'une population sans doute assez attentive. Un bref recensement, dans les sources notariées, l'atteste. Deux jeunes gens du village d'Angeston-Santerre ont combattu en Italie en 1734 et sont revenus. Neuf autres ont été entraînés sur les routes de Flandre pendant la guerre de succession d'Autriche. Pendant la guerre de 7 ans, la campagne d'Allemagne en a mobilisé encore 9, tout ça pour le même village. Des gens qui reviennent. Et enfin, j'en ai 5 autres qui ont traversé l'Atlantique pour combattre en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, à Saint-Domingue et dans l'océan Indien. Enfin, 3 sont revenus après avoir contribué à la pacification de la Corse. Vous avez ici un jeton de l'extraordinaire des guerres où on voit la Corse enchaînée à la France. Voilà. Donc cette mobilité militaire devait modifier profondément la perception du monde des villageois qui restaient sédentaires, la plupart quand même. Dès lors, les villageois qui ne sortaient pas de chez eux étaient capables de déclarer au notaire, par exemple au moment de la clôture d'un héritage en 1775, je cite, « Mon neveu Boissard, soi-disant mort aux îles. » Ou encore un autre, « Thomas Leroux, mon frère, soldat au régiment royal comtois, en garnison à l'île de France en Afrique, donc à l'île Maurice. » J'ai retrouvé aussi de nombreux soldats originaires des villages du Santerre qui sont morts pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Il y a des sites sur Internet, on retrouve tout ça, à Providence, à la bataille de Williamsburg en 1781. Certains reviennent et sont là aussi de probables vecteurs d'informations, comme le seigneur du Plessis-Rosainvillers, là où se trouve la manufacture, qui est parti combattre avec Lafayette et qui retrouve son château vers 1787. Alors évidemment, il est assez difficile, probablement même impossible, de déterminer les valeurs dont étaient porteurs ces soldats qui avaient beaucoup voyagé, beaucoup bourlingué. L'officier ou le sergent qui avait été ébranlé par la propagande des Lumières après la guerre de 7 ans, n'avait pas forcément abouti à l'avènement d'un militaire philosophe, si vous voulez, propagateur des idées des Lumières, on n'en sait rien. On sait que, en revanche, depuis la réforme du marquis de Ségur, qui était secrétaire d'État à la guerre en 1781, les promotions pour monter en grade étaient bloquées. Il fallait avoir 4 quartiers de noblesse, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas de tous ces paysans devenus militaires. On peut supposer qu'après la guerre d'indépendance des États-Unis, des rancœurs ont pu se cristalliser, non seulement chez les officiers de fortune, mais aussi parmi leur entourage. Comment, après avoir fait tout ça, on les maintient à des postes subalternes, etc. On peut le supposer, en tout cas en 1789, lorsque les soldats du régiment du roi se sont mutinés à Nancy, ils ont déclaré, je cite, « mettre leurs armes au service d'une patrie régénérée ». Et ils ont arrêté tous leurs officiers au passage. Parmi eux se trouvait un certain Dominique Benoît, qui était originaire d'Angeston-Santerre, et qui, de retour dans son village en 1792, est brillamment élu capitaine au 6e bataillon de la Somme, à la tête de 38 volontaires natifs de son village. Du reste, 2 ans plus tard, 5 officiers républicains sont nés dans le même village et combattent les Chouans, c'est dire l'ampleur du phénomène. Peu avant la Révolution, tous ces officiers étaient de petits laboureurs. Les mobilités sont aussi sociales au XVIIIe siècle et la marque de Paris dans les registres des notaires brille particulièrement. Paris, on voit beaucoup. Les pauvres quittent les campagnes. On a un puissant mouvement d'exode rural qui commence dès le début du XVIIIe siècle, c'est certain, qui s'amplifie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec des relations à double sens. Par exemple, de nombreux jeunes villageois quittent le Santerre probablement par milliers. Ils y retournent aussi pour des séjours plus ou moins longs, ce qui était la surprise pour moi, et notamment pour placer leurs enfants venus au monde à Paris. Ils les placent à la campagne ou alors pour réaliser des traités de mariage, ou alors encore pour vendre des terres parce qu'ils ont décidé probablement de quitter définitivement la campagne. Donc ils règlent leurs affaires et ils disparaissent. Un sondage réalisé dans le registre des actes de Moreuil, qui correspond à Angestan-Santerre, le registre des actes, vous avez plusieurs études notariales qui sont concernées, pour l'année 1740, donne sur 1200 actes une centaine qui concernent des paysans partis s'installer à Paris ou alors dans les paroisses proches, Argenteuil, Gonesse, Le Blanc-Ménil et aussi à Versailles. Voilà, ce qui correspond à 8,5%. Si on remonte un peu moins loin, les années donc sous Louis XVI, les années 1780, un tiers des familles sont concernées à Angestan-Santerre. Donc c'est un mouvement vraiment massif. On peut supposer en plus que c'est un mouvement qui est difficile à discerner, c'est-à-dire que les mendiants ne reviennent pas, on ne les retrouve pas dans les minutes des notaires, on ne retrouve pas non plus toutes ces jeunes filles qui vont se prostituer à Paris et qui sont arrêtées en masse par milliers. Manon la Picarde, j'ai soutenu une habilitation à diriger des recherches au mois de juin dernier. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur l'inspecteur Jean Pousseau, qui était un inspecteur de la Sûreté de Paris sous Louis XV. Et qui a arrêté 2882 personnes entre 1738 et 1754. Et donc de nombreuses Manon la Picarde qui terminent dans les geôles de Paris, ce sont des gens qui ne passent pas chez le notaire. Donc on peut supposer que tous mes chiffres sont complètement faux. C'est bien plus important que ça en réalité. Donc toujours avoir en tête que ce sont les bourgeois de Paris d'extraction rurale, les officiers, les marchands qui sont surreprésentés dans les sources notariales, tout simplement parce que ces gens se déplaçaient pour affaires. De nombreux marchands étaient du reste des voituriers, allaient et venaient, et forcément, eux aussi, on les retrouve plus facilement. Le Grand Paris, à l'époque du XVIIIe siècle, c'est un véritable Eldorado pour beaucoup, et c'est, pour l'instant, d'après mes sources, la destination privilégiée des ruraux du Santerre qui ne montent pas sur Amiens, redescendent plus loin, sur Paris. Et donc beaucoup s'y installent. Dans la vallée de Montmorency, on en retrouve aussi de très nombreux. Mais on en retrouve qui partent beaucoup plus loin, à l'instar de ce René de Morcy, qui est né dans une famille de petits laboureurs du Quesnel. C'était le cinquième fils. Il était plutôt mal placé. Toute la famille était analphabète. Et ce René s'engage dans l'armée à 17 ans. Il part à Saint-Domingue. Il quitte l'armée. Il se marie là-bas. Il fait un fils, puis il meurt. Et son fils est posthume, et ce Jean-Louis de Morcy, né en 1769, on va le retrouver à la tête des créoles qui combattent les esclaves révoltés en 1791. Voilà, du beau monde. Et donc, nous avons comme ça des gens qui partent bien plus loin que Paris. Bon, voilà, c'est un aventurier, celui-ci. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'ouverture des campagnes ? Je me suis posé malgré tout la question. Ce n'est pas parce que des gens partent, reviennent un peu, que ça va forcément changer la face du monde, du Santerre. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé des personnalités qui peut-être peuvent éclairer ou donner des pistes. Le remarquable destin, en particulier d'un certain Amand Leroux, vaut, je pense, pour plusieurs autres. Il est né en 1754 à Angestan-Santerre. Son père était un tisserand, pauvre, analphabète. Et ce Leroux, il a eu quand même plusieurs atouts dans la vie. D'abord, il avait un oncle maternel qui était officier de fortune au régiment de Blaisois, ce qui était intéressant parce que c'était un personnage qui revenait au village, qui parrainait beaucoup et ensuite qui enrôlait dans son régiment quand ses filleuls avaient atteint l'adolescence. Lui, Leroux, n'était pas parti forcément pour s'enrôler, mais il a cherché à fuir une certaine Marianne Wable, enceinte de ses œuvres, avec qui il n'était pas marié. Il avait 18 ans. Bon, il avait un deuxième atout, il mesurait 5 pieds 5 pouces, 1m80, donc il était costaud. C'était 4 pouces de plus que la moyenne des jeunes de son village, 1m68, dans les années 1770. On peut supposer aussi qu'il avait un caractère bien trempé, vous allez voir. En tout cas, il a été soldat pendant 3 ans. Il a été promu sergent en Corse en 1777. Ensuite, il a passé 4 ans à Bordeaux, à Béthune, à Saint-Omer, et il est devenu sergent-major. En 1786, après 12 ans d'armée, il revient dans son village, probablement auréolé de gloire, parce qu'il avait vu du pays. Il réussit à épouser sa cousine germaine, qui est fille unique et unique héritière d'un marchand boucher. Pas très riche, mais enfin, c'est déjà pas mal, elle était unique héritière. Et ce couple va pouvoir faire partie des notables du village en ouvrant une épicerie. Au moment de la Révolution, lorsqu'elle éclate en 1789, donc 3 ans seulement après le retour de l'ancien soldat, eh bien, il se fait élire juge de paix du canton. Pendant 12 ans, il va poursuivre une carrière parallèle de magistrat et de marchand dans son village. Il va en profiter pour acheter 53 hectares de terre nationale et même un moulin. Et un tel domaine va le placer parmi les plus gros propriétaires de son village. En 1801, il est maire du village et son instruction qu'il a acquise aux armées lui a permis probablement de négocier un retour très confortable. En tout cas, à sa mort en 1811, il est devenu huissier au tribunal de Montdidier, la petite ville locale. Son élévation sociale manifeste va de pair avec d'importantes prises de responsabilité. Il est investi dans le mouvement révolutionnaire, fait commissaire à la levée en masse en 1792 et il enrôle 56 hommes de sa commune. Donc ça correspond au quart de la population masculine de son village. Au passage, il se débarrasse ainsi d'amant ouable, dit Leroux, son bâtard, qui a maintenant 18 ans, et les volontaires, en tout cas ceux qu'il a incités à partir, vont faire à leur tour l'expérience de la guerre. Lui ne le repart pas. Ils vont d'abord aller combattre à l'armée du Nord, à Lille, et puis ensuite contre les brigands, les Chouans, les Vendéens. Et finalement, on peut supposer qu'Amand Leroux a bien joué un rôle très important parce qu'il a modifié le destin d'une part importante de la population de son village qui avait été mise en confiance par ce républicain convaincu qui n'a pas hésité à appeler ses fils légitimes Unité Prospère pour le premier et Maximilien pour le deuxième, comme Robespierre. Donc. Extrêmement rare dans les campagnes, le prénom révolutionnaire Unité est sans coup férir teinté d'urbanité. On sent qu'Amand Leroux est sorti de son village et dans les petites villes picardes à Chaune, Âme, Montdidier, Moreuil, Péronne, Roy, les fils des sans-culottes portent de tels prénoms. On trouve des Brutus, des Caius, Gracchus, Solon. D'autres appellent leur rejeton Vendémiaire, Germinal, Cartidi, Quintidi, Novidi ou Pioche. Les héros Viala et Mara, les républiques, la république en un seul mot pour une fille, joli prénom, républicain, liberté, union et libre, c'est pareil, hein, sont aussi les prénoms des enfants de révolutionnaires. Au Plessis-Rosainvillers, où on l'a vu, s'est installée cette manufacture textile qui employait beaucoup de hors-saints, les rues changent de nom. C'est le seul village où les rues changent de nom. Mais les rues, en 1794, sont rue de la République, rue de la Fraternité, rue de la Montagne, rue du Canon, rue de Marat. Et au même moment, s'épanouit là un groupe de sans-culottes ruraux assez important qui affuble leurs enfants de prénoms révolutionnaires et s'investissent dans le conseil municipal. Le Plessis-Rosainvillers, c'est un village sur lequel je travaille en ce moment parce que non seulement vous avez ces sans-culottes, ça c'est ce que je raconte dans mon livre, mais j'ai découvert depuis que les patrons de la manufacture étaient parisiens, ça c'est connu, mais ce qui n'était pas connu, c'est qu'ils étaient jansénistes et qu'ils ont converti eux-mêmes, dans les années 1730, une partie de la population du village. Tant et si bien que le curé du Plessis-Rosainvillers, qui détestait les jansénistes, a appelé au meurtre contre 3 jeunes filles orphelines de surcroît. Il a appelé au meurtre pendant la messe, dans son église, il a dit qu'il fallait les noyer dans leur sang. Alors, elles se sont fait tabasser. Ensuite, l'esclandre a continué dans les rues du village. Évidemment, ces jeunes filles avaient de la famille. Donc, tout le monde se tapait dessus. Certains ont fini dans la mare aux canards. Ça fait une histoire terrible. Et les frères Sénard, les patrons de cette manufacture, ont porté plainte au Parlement de Paris, qui a condamné le curé Jean Boutor à être exilé, banni du royaume pour toujours, avec confiscation de ses biens en 1754, 15 ans après. Et c'est intéressant parce que Voltaire en a parlé, et donc pour montrer une énième ignominie de l'Église, etc. Mais c'est intéressant parce que je me suis dit, ça je l'ignorais quand j'ai écrit mon livre, mais on a quand même un village, le seul village où on a la manufacture, où on a des gens sénistes, où on a des gens qui ne se supportent plus. Et puis, ces gens sénistes qui, par ailleurs, affublent leurs enfants de prénoms issus de l'Ancien Testament. Alors, on a des François Moïse, des Denis Isaac, des Marie Déborah. On les reconnaît à ça. Et ensuite, toujours dans le même village, c'est révolutionnaire. Parmi ces sans-culottes ruraux, je voudrais présenter rapidement le cas de Dominique Douvry. Dominique Douvry, qui était un contemporain d'Amand Le Roux, ses parents étaient des manouvriers pauvres, et lui-même a commencé sa carrière à vivoter dans la confection textile et à travailler selon les saisons dans les champs comme manouvrier. C'était un anonyme, comme la plupart des manouvriers, et pourtant son destin a bifurqué. En fait, en 1788, les archives cessent de le qualifier de manouvrier ou de fabricant de bas au métier, et dans les archives, il devient fondeur de cuivre, au village, et même horloger, à partir de l'année 1800. Par ailleurs, vous voyez son élégante signature, qui brille au milieu des signatures des autres, François-Dominique Douvry. C'était le dernier prénom qui était toujours employé quasiment dans la Somme. Donc Dominique Douvry, on peut supposer qu'il avait dépassé le niveau culturel général de son milieu d'origine et de sa génération. Entre-temps, la Révolution a éclaté. Un décret de la Convention du 21 mars 1793 a voulu que chaque commune regroupe 12 élus chargés de recevoir les déclarations des étrangers et les dénonciations. Les comités de surveillance sont en relation directe avec l'administration révolutionnaire qu'ils informent des activités séditieuses. Dominique Douvry intègre ainsi le comité de surveillance du canton d'Angestan-Santerre. Il devient le président du comité de surveillance et pendant la terreur, il dénonce les curés, les notaires et les ci-devants. Son ami Dominique Mortier est né dans une famille de petits laboureurs. C'est un patriote zélé, il se fait élire maire d'Angestan-Santerre et il prend l'initiative d'imprimer des billets de confiance car la monnaie manque. Vous voyez, c'est écrit « Utile à la patrie », en dessous, c'est bien dans l'air du temps. Et en février 1794, il a un quatrième enfant, il le prénomme Marat, donc Marat Mortier. On peut dire qu'à la campagne, de tels hommes, hein, Douvry, Mortier, qui sont des artisans ou des paysans, toujours lettrés, hein, on voit que la signature de Dominique Mortier est tout à fait maîtrisée, sont les interlocuteurs au village du pouvoir urbain. Et il participe aussi, très certainement, activement à la mise à mort de l'Ancien Régime. Par ailleurs, parmi ces hommes, on retrouve un personnage qui a été évoqué par Jean-Marc Morisseau, qui est bien connu, c'est le fameux François-Noël Babeuf, dit Gracchus Babeuf, qui joue un rôle très important dans le Santerre, d'où sa famille est originaire. Elle vient de Monchy-Lagache. Lui-même est de Saint-Quentin, mais c'est un accident. Et c'est un personnage qui est devenu commissaire à Terrier, qui a fait des études, qui entretient des relations épistolaires avec de nombreux seigneurs du Santerre, qui est très influencé par les philosophes des Lumières. On connaît sa bibliothèque, on sait ce qu'il a lu, ce qu'il a cité, et qui s'intéresse aux questions sociales dans une province aux terres si riches. Et dans cette province aux terres si riches, l'extrême misère des manouvriers et des bas-destamiers choque son bon sens. Par exemple, après le discours d'Alexandre de Lamette, qui est député de la noblesse aux États généraux, du bailliage de Péronne, Babeuf s'insurge et il écrit, je le cite, « Belle noblesse, que celle qui, de votre propre aveu, n'est qu'une distinction déférée à des êtres qui ont cherché à s'assurer d'odieux privilèges. » À partir de février 1791, après l'assaut du château de Davenescourt, vous voyez ce magnifique château avec la chapelle de ce côté-là, avec une ferme seigneuriale magnifique. Donc, ce château qui est pris d'assaut par les habitants du village, eh bien, Babeuf va visiter en prison les meneurs qui sont donc incarcérés. Et à ce titre, il va s'aliéner évidemment la noblesse, celle avec qui il communiquait avant la Révolution. Selon l'ami de la comtesse de la Mire, qui est la propriétaire du château, il y a quand même eu un mort. Hein. Un serviteur de la comtesse a été abattu. La comtesse a eu très peur, elle s'est enfuie à Amiens avec ses enfants, en plus c'est une veuve, elle est sans protection. Bon bref, elle a quand même quelqu'un qui la protège, c'est l'abbé Tournier, qui est le précepteur de ses enfants. Et l'abbé Tournier qui écrit, après le pillage du château, que Babeuf sème l'anarchie en demandant, je le cite, le partage des terres ci-devant seigneuriales, et aussi il veut substituer la République à la monarchie, ce qui le trouble profondément. Dans son pamphlet, l'abbé Tournier traite les habitants d'Avenescourt, je le cite, de peuple égaré, ingrat, hyène sanguinaire, monstre, ordre d'assassins et tigre altéré de sang, horde de cannibales. Et là, c'est plus intéressant. Pour l'abbé, les émeutiers appartiennent aux cloaques de quelques factieux dangereux vomis par la capitale. Vomis par la capitale, c'est intéressant parce que parmi les paysans arrêtés, il y a un certain Pierre-François de Bailly, qui est né en 1771, donc il a tout juste 20 ans. C'est un vainqueur de la Bastille. Donc il est allé à Paris, il a pris la Bastille avec les autres, il est revenu, il a été vomi, et puis après ils ont pris le château, quelques temps plus tard. Donc finalement, Babeuf va obtenir la libération des meneurs. Il faut dire qu'entre-temps, il a été aidé, puisque 200 personnes armées de gourdins sont venues s'installer, se réunir devant la prison de Montdidier, et devant, réclamant avec véhémence la libération des détenus, et les juges ont cédé. Babeuf se fait l'avocat des habitants d'Angest-en-Santerre, dans un procès qui concerne l'abolition des censives, et l'abolition du régime féodal. Son investissement en faveur des humbles lui confère une certaine popularité, on imagine, mais aussi la haine des élites sociales qui attendent le moindre faux pas pour se débarrasser de lui. Et évidemment, il va le faire, ce faux pas. Il réalise un faux pour venir en aide à un fermier. C'est remarqué. Et il est obligé de fuir à Paris. Une fois à Paris, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit à sa femme qui est restée dans le Santerre, et il lui demande de contacter la municipalité d'Angest pour se faire payer de ses efforts. Preuve de ses relations avec Amand Leroux, celui qui avait été militaire, il précise « Au mois de janvier dernier, le juge de paix m'a demandé 10 fois mon mémoire pour me faire payer. Donc si Babeuf et Leroux se sont rencontrés au moins 10 fois en un mois, on peut supposer que Babeuf côtoyait aussi les principaux officiers municipaux d'Angest, Dominique Mortier, Dominique Douvry, vecteur des idéaux égalitaires du tribun du peuple. Ajoutons un fait notable, Amand Leroux était le cousin de Gabriel Leroux, qui avait ouvert une librairie à Montdidier et qui diffusait localement le correspondant Picard, qui était le journal de Babeuf. Donc la boucle est bouclée et on voit l'influence du personnage sur des paysans dont les noms apparaissent dans l'état civil, dans les registres paroissiaux, dans les minutes des notaires, mais finalement, ce n'était pas écrit à la base qu'on les retrouverait dans le cercle des relations de ce Babeuf. Sur la question de l'influence extérieure au village, je me suis intéressé évidemment à l'ouverture matérielle, puisque j'ai travaillé sur plusieurs centaines d'inventaires après décès. Alors pour aller vite, parce que l'heure tourne, ces inventaires après décès montrent l'importante progression des horloges au cours du siècle dans les intérieurs ruraux, des perruques, parce que des paysans portent des perruques, des vêtements rayés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des chemisettes de couleur, du rouge en particulier, des redingotes, peut-être l'influence de l'Angleterre, parce que ça vient de riding coat, donc les paysans ont des redingotes usées. De la vaisselle de faïence, au début du siècle, on a surtout de l'étain. Ensuite, à partir des années 1730, beaucoup de faïence. L'étain, ça coûte désormais plus cher. Et puis, l'adoption de nouveaux comportements en matière de goût. Par exemple, on retrouve des saladiers, c'est nouveau, visiblement. Au fil du siècle, on retrouve aussi l'utilisation de la fourchette par tout un chacun, qui renforce l'idée d'un plat pays ouvert aux habitudes qui ont été forgées à la ville. La place des migrants dans ce processus paraît évidemment primordiale. Le café, qui est le sous-titre de mon livre, mais qui est une des clés d'entrée seulement, est l'apanage des privilégiés sous Louis XIV. Et donc ce café, qui était massivement importé de Saint-Domingue, fait l'objet d'une large diffusion à Bordeaux à partir de 1725. À l'exemple de la cour, les Parisiens en raffolent à partir des années 1730. On sait, ce ne sont pas mes chiffres, je les ai piochés dans les travaux de collègues, qui à partir de 1760, 37% des inventaires après décès de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, 40% des inventaires de l'aristocratique paroisse Saint-Sulpice à Paris mentionnent des cafetières. Dans le très populaire Faubourg Saint-Antoine, toujours à Paris, 15% des inventaires après décès mentionnent des cafetières en 1760. Et le café au lait devient même la boisson du lever citadin dans les décennies 1780. Elle est servie dans 6 à 700 cafés parisiens, dit-on. Passé les murs de la capitale, la vogue se poursuit. 16,5% des inventaires mobiliers à Saint-Denis, ultime étape des voituriers picards avant la capitale, font état de cafetières en fer blanc sous le directoire. Alors en Picardie, c'est pareil, le succès du café va croissant. Et il semble atteindre le plat pays au milieu du siècle, acheminé par les rouliers et les voituriers. Le café est d'abord dégusté au presbytère. Cette boisson nouvelle gagne une certaine popularité ensuite dans les cabarets et les auberges de campagne, le long et à proximité des routes royales. De l'ensemble des inventaires mobiliers rédigés entre 1750 et 1800 dans 5 paroisses rurales voisines, je vous épargne les noms, 12% laissent découvrir des mentions de cafetières en terre, le plus souvent estimées 10 sols, ce qui représente pratiquement le salaire quotidien d'un manouvrier. Donc c'est pas rien. On retrouve des marchands, des artisans, des laboureurs, un berger, des manouvriers qui en détiennent, avec des patrimoines qui s'échelonnent entre 3600 livres pour un marchand et 60 livres seulement pour une pauvre manouvrière, veuve et âgée. On a donc un éventail social très large. Les villageois prennent le café entre amis, adoptent un rituel de sociabilité qui était jusqu'ici dévolu aux seules élites sociales. Le village de Bouchoire, qui n'est pas si perdu que ça, et qui cumule les plus anciennes mentions de cafetières. Un certain Pierre Leroy, né en 1668 et mort en 1750, marchand de fil, y possède une cafetière de terre, estimée 3 sols. Leroy a 3 fils. L'aîné tient l'épicerie du village, et il vend du sucre et du café. Le cadet est cabaretier, il sert du café. Quant au plus jeune, il est parti vivre à Paris, mais il est charretier. Et il revient, et quand il revient, il diffuse des produits de la capitale. Les Leroy sont intimement liés aux Cachelièvres. En fait, il y a 2 familles dans ce village, donc ce n'est pas compliqué. Et les Cachelièvres entretiennent d'actives relations à Paris et à Versailles. On a un solide réseau de connaissances qui les met en contact avec les plus hautes strates de la société. En effet, 2 des petits-fils de Pierre Leroy ne se contentent pas seulement de s'adonner à la passion du café. Pierre Cachelièvre, né en 1734 à Bouchoire, est un des musiciens du roi à Versailles. Donc ici, vous avez une gravure qui représente un musicien du roi, mais elle est plus ancienne que celle de l'époque où nous avons Pierre Cachelièvre. Le frère de Pierre Cachelièvre, Adrien, est un clerc-tonsuré de la Sainte-Chapelle de Paris. On peut placer cette information dans le fait que les chantres picards étaient réputés depuis le Moyen-Âge. Bon, en tout cas, c'était des gens qui venaient d'une famille vraiment pauvre, et c'est surprenant de les retrouver et à Versailles et à la Sainte-Chapelle, d'autant plus que leurs frères sont restés au pays et qu'ils exercent ça, toujours des métiers mécaniques qui sont absolument déconsidérés par les nantis. Pourtant, et c'est ce qui m'a probablement le plus intéressé concernant ce village, c'est lors du mariage de Pierre Cachelièvre à Versailles en 1766, on retrouve dans l'acte tous les membres de sa famille qui sont restés au pays et qui n'ont pas hésité à franchir une très longue distance pour aller assister à la cérémonie. Le fossé social qui séparait un musicien de sa majesté de sa famille rurale a été par conséquent franchi. Et c'est intéressant parce que là, encore, on voit que des contacts subsistaient et que des idées, probablement, et des objets devaient se diffuser. Pour leur plus grand profit, d'autres familles, de ce village de Bouchoire servaient le pouvoir royal dans la musique du roi, mais aussi à la petite écurie du roi à Versailles. Donc on a là un réseau qui s'est mis en place. Comment bon, ça demanderait à être trouvé. On ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut, mais loin s'en faut. Mais en tout cas, on peut imaginer que lorsque ces gens revenaient, ils pouvaient offrir ici du café ou là un récit épique de la vie urbaine, le tout noyé dans un peu d'eau de vie. Donc le succès du café s'accompagne d'autres traits marquants. On retrouve dans les inventaires après décès des documents, comme par exemple des inventaires après décès d'ecclésiastiques qui signalent le mercure. On ne retrouve pas de journaux, de canards, de fascicules, tout ça devait exister mais n'est jamais inventorié, ou alors n'existait pas dans ces inventaires ou chez ces gens-là. En tout cas, on retrouve des traces du mercure. On retrouve aussi des traités de religion et d'histoire chez certains paysans, des meuniers notamment. Donc c'est intéressant aussi. On retrouve, et ça c'est fantastique, on retrouve à l'occasion d'un assassinat dans les poches d'un laboureur, d'un petit laboureur, Jean Morel, qui s'est fait assassiner en 1766 et qui a été jeté au fond d'un puits. On retrouve dans ses poches un exemplaire des Pensées chrétiennes. Et puis aussi une petite tabatière en carton. Donc notre laboureur allait au champ avec de la lecture. Il avait aussi d'ailleurs une paire de lunettes. Donc on est loin de l'image, en tout cas de l'image que moi j'avais d'un laboureur en 1766. Bon, ça ne l'a pas empêché de se faire assassiner. Au Plessis-Rosainvillers, ce village investi par les jansénistes et la manufacture, le quart des inventaires après décès, qui a été rédigé entre 1745 et 80 pour des familles assez humbles, hein, le plus souvent des peigneurs de laine, pour beaucoup, mentionne des livres dont l'apparition au village est assez récente. Il faut savoir que les livres sont 9 fois plus fréquents dans ce village en particulier qu'ils ne l'étaient à Montreuil-sous-Bois, pourtant aux portes de Paris, 50 ans plus tôt. Donc, quand on tombe sur autant de livres, là encore, on peut pas les louper, hein, forcément. La littérature agronomique, je me suis demandé, on avait après tout toutes ces lettres du curé Bayet, de Bayonvillers, cette correspondance entretenue avec Duhamel du Monceau, mais elle est totalement absente de mon échantillon. Pourtant, il y avait de vigoureux relais d'informations. Par exemple, Gabriel Dautin, qui était maître de poste et aubergiste à Villers-Bretonneux, aux portes d'Amiens, et qui a popularisé la culture des pommes de terre, personnage qui était féru d'agronomie. Comme son voisin, le curé Bayet, a correspondu lui aussi avec Duhamel du Monceau. Il s'est intéressé au destin. Comment dirais-je C'était Bayet qui s'était intéressé donc au destin de ce soldat qui ouvrait le village sur le monde, peut-être. Dautin, lui, s'est intéressé à la production et à la fabrication d'une charrue à 5 coutres. Qui ensuite a été acheminé par un voiturier jusqu'à Paris, chez Duhamel du Monceau. Donc ça lui a valu une certaine notoriété. Dautin a aussi entrepris avec succès la culture des pommes de terre et il a écrit et envoyé un mémoire de 8 pages à l'intendant de Picardie, dans lequel il relatait ses expériences et reprenait une recette de pain de tubercule pour combattre la disette. Finalement, l'expérience acquise par Mantier. Vous avez une belle statue qui n'existe plus, enfin, ils en ont fait une autre depuis. Donc l'expérience acquise par Parmentier, bien connu, pharmacien militaire natif de Montdidier, dans le Santerre, a participé lui aussi à l'évolution agricole. On sait qu'il a été capturé en Westphalie, nourri de kartoffel, par ses geôliers, et qu'il a été ensuite rendu à la liberté après la guerre de 7 ans, et qu'il a contribué lui aussi à l'adoption de la pomme de terre dans l'alimentation. Du moins de celle des plus démunis, dans celle des plus démunis. Parce que en 1793, le fils de Gracchus Babeuf écrit depuis le Santerre, roi, à son père à Paris. Je le cite. On ne peut plus acheter de pommes de terre, elles valent 26 livres le boisseau. Maman vend tout le peu qui lui reste pour vivre. Les pommes de terre dont nous vivons la plupart du temps sont toutes pourrites, toutes germées. Donc le marché de roi. Aux confins du vaste plateau céréalier du Santerre et à proximité de la route royale de Paris aux Flandres, écoulaient par conséquent aussi des tubercules dont la réputation dépassait désormais de loin le cercle des agronomes picards ou parisiens. Alors pour conclure, on peut dire que l'extraordinaire richesse des archives, en dépit des destructions de 1918, mais aussi de celles de 1940, qui ont malheureusement été assez nombreuses, donc l'extraordinaire richesse des archives et leur analyse sérielle permet de discerner un monde de migrants particulièrement nombreux et dynamiques. En tout cas, on repère ceux qui sont les plus dynamiques. Au XVIIIe siècle, si la majeure partie des ruraux s'aventurait rarement en dehors d'un rayon d'une vingtaine de kilomètres, beaucoup n'en étaient pas moins mobiles. Tout d'abord parce que se rendre dans les villes, marcher et en revenir nécessitait moins d'une journée de marche. Et ensuite parce que l'approvisionnement de la capitale et l'espoir d'une vie meilleure était rendu possible par de belles et longues routes royales qui incitaient à rejoindre l'Eldorado parisien. L'oralité dominante fait toutefois obstacle à la reconstitution de l'univers des plus humbles, qui écrivaient peu, évidemment. Les sources laissent appréhender toutefois un important aspect du quotidien des campagnes qui était irrigué moralement et matériellement par d'intenses mobilités. En des temps démographiques, surtout après les années 1750, les récits des cousins émigrés et revenus régler quelques successions, les aventures des soldats, sans doute fréquemment magnifiées, on se rappelle de l'époque du service militaire, incitaient une partie de la jeunesse à chercher fortune loin de leur province. Les mobilités ne convergeaient pas seulement vers l'Île-de-France. À l'occasion, des Picardes épousaient des Normands, venus convoyer des épingles métalliques pour les tisserands, des Tamis pour les laboureurs. Si les invalides et ceux dont l'intégration urbaine a échoué, souvent miséreux, assombrissent le tableau, les mobilités mettent en scène un certain dynamisme. À leur retour, fort d'une expérience souvent inédite, les voyageurs dilataient l'univers matériel et symbolique des ruraux. En somme, les migrants ont occupé une place originale et positive. Enfin, les étrangers de Suisse, d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne, déserteurs ennemis ou prisonniers de guerre, pourtant victimes d'une méfiance et d'une agressivité tangible, se sont finalement intégrés au microcosme au moment où les structures mises à mal par la monarchie absolue allaient violemment éclater, mises à mal par un mouvement révolutionnaire qui aura largement mobilisé les Picards en quête de justice sociale. Je vous remercie. Thank you.